Chapitre 21. Profanation. Jeudi, 17 août 2000, 15h03, route de la Citadelle, Île-de-Marnessay. Je n'avais jamais été très bon en sport. Pourtant, cet après-midi, j'avais dû battre tous mes records personnels. Avant que le type à la figure d'ivrogne ait le temps de baisser ses bras sur moi, de prononcer le moindre mot, je me mis à courir sans penser à rien d'autre. À la vue de l'état physique du zombie, je me disais qu'il avait peu de chances de me rattraper, sur la durée, en endurance. À condition qu'il ne cache pas d'arme à feu dans sa poche. Le dos trempé, je sprintais sans me retourner. Les herbes hautes fouettaient mes jambes. Je n'osais pas les regarder, mais j'avais l'impression qu'elles étaient en sang. Mon cœur cognait comme jamais. J'étais parti trop vite. Jamais je n'allais tenir cette allure. J'avais été stupide. J'allais craquer, m'effondrer sur le côté. Il allait me rejoindre. Je n'avais pas couru depuis au moins un an. Pourtant, par miracle, mes jambes parvenaient encore à me porter. Pour combien de temps ? Surtout regarder devant. Courir. Était-il encore derrière moi ? Courir jusqu'à la route. La route ? Oui. Elle m'apparut enfin 200 mètres plus loin. Je ne pouvais plus craquer. Plus maintenant. J'entendais à nouveau les klaxons, les cris, les bruits. Je ne sentais plus mes jambes, ni le fouet des herbes sur elles. Ne pas se retourner. Continuer jusqu'au bitume. Jusqu'à cette file ininterrompue de voitures qui me sembla soudain si rassurante. J'arrivais à la route. Les voitures n'avançaient pas. Sur ma lancée, sous les regards étonnés des automobilistes, je traversais sans ralentir la départementale, accélérant encore, et enfin de l'autre côté de la chaussée, protégé de mon agresseur par un mur d'automobile plein à craquer de bons pères de famille prêts à me défendre, je m'effondrais. Je vomis presque instantanément mon panaché, ma laitue et mes dés de jambon. Finalement, je ne regrettais pas l'assiette de fruits de mer. Une fillette de 6 ans, le nez collé à la vitre de l'Audi 80 immobilisé de ses parents, me regardait avec une attention gênante, au point mort. Je m'essuyais comme je pouvais avec un mouchoir en papier. La fille continuait de me dévisager. Je jetai un coup d'œil à travers la file de voitures. Aucune trace de mon poursuivant. Je l'avais visiblement décroché. Qui était ce monstre ? Le fugitif, Valerino ? Possible. Il allait falloir que je prévienne la police, peut-être. Pourquoi aller chercher des ennuis ? Je marchais le long de la route de la Citadelle. La file des voitures me faisait face. Toutes se rendaient au terminal du ferry pour rejoindre le continent. Comme pour accentuer la sinistre impression que laissait la fuite des vacanciers, le soleil lui-même avait déserté le ciel de l'île. Des nuages gris menaçants s'accumulaient jusqu'au continent. C'était la première fois depuis que j'étais sur l'île. Un vent insistant glaçait mon dos trempé de sueur. Je reprenais mes esprits petit à petit. Après tout, cet ivrogne n'avait peut-être rien à voir avec l'évadé. Il pouvait s'agir d'un type surpris dans son sommeil, d'un ancien marin, d'un clochard. Plus effrayant que dangereux. Il ne m'avait rien fait. Il ne m'avait pas agressé. Il ne m'avait peut-être même pas suivi. J'avais pris peur tout seul. J'arrivais au cimetière. Son long et haut mur bordait la route sur une centaine de mètres. Qu'il soit si près des voitures me rassurait. Une fois dans le cimetière, je n'allais pas me retrouver seul. Pas vraiment. Je poussai la grille, bien entendu elle grinçait, comme dans les pires films d'horreur. J'entrai. Tout de suite, je déchantai. Les hauts murs du cimetière ne permettaient pas à l'intérieur de voir la route. Je m'avançai un peu. Même les bruits de la rue semblaient se dissoudre dans l'étrange ambiance silencieuse de ce lieu macabre. Je m'avançai encore. Le cimetière était désert, évidemment. Je me fis la réflexion que si le type de tout à l'heure entrait, j'étais coincé. Personne ne pourrait nous voir, à moins de se positionner devant la grille. De l'autre côté du mur, personne ne pouvait deviner ce qui se passait dans le cimetière. Je serais pris au piège. Je regardais avec inquiétude derrière moi. J'avais bien refermé la grille. Si quelqu'un l'ouvrait, je l'entendrais. Et pourquoi ce type m'aurait-il suivi jusqu'ici ? Le cimetière n'était pas immense, mais je n'avais aucune idée de l'endroit où pouvait se trouver la tombe ou les tombes de mes parents. Je pensais que le tour serait vite fait. Le temps couvert, l'absence de soleil rendait encore plus lugubre le lieu. Derrière les deux grands ifs plantés sur le côté ou les plus hautes stèles, n'importe qui aurait pu se dissimuler dans la pénombre. Je commençai à chercher. Tout de suite, les dates me fascinèrent. Je me fis la réflexion que l'on n'écrivait jamais sur les tombes l'âge auquel la personne était morte. Et pourtant, instinctivement, c'était la première chose que l'on calculait en regardant une tombe. Devant chaque sépulture, je faisais machinalement la soustraction entre l'année de mort et celle de naissance. 83 ans, 67 ans. Lorsque la différence descendait sous les 60 ans, j'imaginais le drame, la vie brisée, le désarroi de ceux qui restent. D'ailleurs, ces tombes, que dans ma tête j'appelais les moins de 60, étaient généralement mieux entretenues. Était-ce aussi le cas pour la tombe de mes parents? Qui l'entretenait? Nounou? Pas Thierry et Brigitte, en tout cas. À moins qu'ils ne payent quelqu'un pour cela sur l'île. Jamais je n'en avais entendu parler. Dans la rangée suivante, je me retrouvais face aux enfants. Des petites cages en fer forgé rouillé, moins d'un mètre. Et toujours mon macabre calcul. 4 ans. 6 ans. 1 an. 3 mois. Des photos, parfois. Je frissonnais, le dos mouillé, gelé. Je n'avais jamais rien vu de plus atroce que ces petites cages. Je réalisais que j'entrais dans un cimetière pour la première fois. Je sentais l'angoisse monter en moi. Se dépêcher. Trouver la tombe de mon père et de ma mère. J'accélérais le rythme. M'attarder sur chaque emplacement, chaque nom, chaque année de décès augmentait ma frousse. J'essayais alors de rechercher plus mécaniquement, de lire seulement le nom. Mais parfois, il n'y en avait pas, ou il était presque effacé. Petit à petit, je gagnais en efficacité. Lorsque les plaques mortuaires indiquaient « à ma grand-mère, à mon grand-père », je les contournais. Et c'était la plupart des cas. J'allais vite désormais. Je me sentais entraîné dans un étrange tourbillon. Lire tous ces noms d'hommes et de femmes morts, de plus en plus vite, comme pour battre un record funèbre. L'idée idiote me traversa qu'il serait plus simple de ranger les tombes par ordre alphabétique. Pourquoi pas, après tout? Ou par ordre chronologique? Pourquoi un tel bordel? Je ne trouvais aucune trace du nom de mon père ou de ma mère. Mon angoisse augmentait à nouveau. J'avais presque parcouru les 3/4 des allées. Et si je l'avais raté? Et si la tombe n'était plus ici? J'avais souvent entendu Mamie Madeleine dire que papa et maman étaient enterrés là. Mais c'était il y a longtemps. Et peut-être m'avait-elle menti? Non. Le journaliste, tout à l'heure, avait lui aussi parlé de la tombe de mon père, ici. Ou bien, il existait un autre cimetière sur l'île? Pourquoi pas? Tout en marchant, je continuais à désespérer. Qui l'entretenait, cette tombe? Si personne ne s'en chargeait, peut-être qu'au bout d'un certain temps, on donnait l'emplacement à un autre. Ça pouvait paraître logique, mais il y avait dans les cimetières de très vieilles sépultures, très peu entretenues. En 10 ans, la tombe de mes parents ne pouvait pas avoir atteint l'état de délabrement de celle d'avant-guerre. Encore une nouvelle allée. J'attaquais les dernières. Soudain, mes yeux se figèrent. Jean et Anne Rémy. 1959-1990, 1960-1990. Une tombe pour deux. Mon cœur chavira. Devant moi, la tombe de mes parents était entièrement souillée, profanée. À l'aide d'une bombe de peinture rouge, quelqu'un avait grossièrement tagué le marbre. Une tête de mort, des sexes d'hommes, des croix. L'ensemble de la tombe avait été vandalisé. Je restais blême, incrédule, meurtri au plus profond de ma chair. Qui pouvait bien avoir commis un tel acte? Qui pouvait avoir osé une telle profanation? Quelle folie avait pu générer une telle horreur? Et pourquoi? Pourquoi s'attaquer à la tombe de mes parents? Pourquoi était-ce la seule dans ce cas dans le cimetière? La seule taguée dans ce cimetière tranquille? Pourquoi? Je me baissais. La peinture semblait encore fraîche. Le vandale avait agi il y a moins de 2 jours. Toutes les plaques mortuaires, très nombreuses sur la tombe, étaient-elles aussi souillées? À mon fils, à ma belle-fille, à ma sœur. Une plaque originale, offerte par les membres de l'association Saint-Antoine, rappelait les pierres de l'abbaye. Il y avait même une plaque de la mairie, aux plus fidèles amoureux de l'île de Mornecey. Une autre imposante en marbre non signée était gravée « À mon meilleur ami ». Qui pouvait l'avoir offerte? Ce fameux Raphaël ou Gabriel, le promoteur plein aux as? Ou bien ce Maxime Prieur dont j'ignorais tout? Je m'approchai encore. Sur la tombe, un cadre de verre incrusté dans le marbre contenait une photographie de mon père et de ma mère. Un nouvel électrochoc de fureur me secoua. Dans son cadre de verre, la photographie de mes parents était méconnaissable. Quelqu'un, à l'aide d'une pointe ou d'un couteau, s'était acharné sur le verre, entaillant presque l'ensemble de la surface. Il était impossible de distinguer le visage de mes parents. Qui pouvait avoir pour eux une telle haine, jusqu'à vouloir faire disparaître leur visage? Un profond sentiment de colère me submergeait. Qui ? Pourquoi ? Toute la journée, chacun m'avait convaincu que mon père était un type bien, digne, apprécié. Pourtant, quelqu'un avait sali sa mémoire. Quelqu'un lui en voulait au point de profaner sa tombe, de vouloir détruire son image. Je pensais aux familles des ouvriers tués sur le chantier. Mais pourquoi un tel acte 10 ans plus tard ? Aujourd'hui, le jour de mon retour. Mon père était-il réellement cet homme admirable que Nounou m'avait décrit ? Est-ce qu'on ne me mentait pas une nouvelle fois ? Mon père fidèle, père et mari modèle, le plus beau couple de l'île, unis dans la mort, faisant même désormais tombe commune avec sa femme. Cela aussi, c'était une fable qu'on me servait. Puisque ma mère reposait seule sous cette plaque de marbre, mon père découchait, même dans son cercueil. Je le savais. Il ne dormait pas dans cette tombe. Il se promenait librement sur l'île dans une camionnette blanche. Pour aller retrouver cette fille rousse qu'il plottait sous les yeux de ma mère ? Qu'était-elle devenue, cette fille ? Avait-elle quelque chose à voir dans la disparition de mon père ? Tout n'était que mise en scène. Tout le monde me mentait. Qui était mon père en réalité ? Le grincement de la grille du cimetière me sortit brusquement de mes pensées. Je me retournai. Malgré le ciel bas, la pénombre du lieu, je reconnus immédiatement sa silhouette sombre. C'était lui, le marin fou, l'ivrogne sans dents. Je ne l'avais pas réveillé sur la lande, je ne l'avais pas croisé par hasard. Il me suivait. C'est bien à moi qu'il en voulait.